Tiger Woods, le documentaire proposé par HBO, qui font toujours de la télévision de qualité, accessible ici au Canada via HBO ou encore Crave TV. Et juste avant d'accueillir mon ami et collègue Jérémy Filosa, qui a regardé ça tout comme moi, on voulait en discuter, on va vous passer un extrait d'ailleurs que vous avez sûrement vu en regardant peut-être du football en fin de semaine, qui servait à la bande annonce pour promouvoir la diffusion de la série. C'est le père de Tiger Woods, Earl Woods, qui présente, qui fait don de son fils au monde entier, en quelque sorte. C'est ma façon de le présenter. Écoutez ça, puis ensuite, on accueille Jérémy.
Please forgive me, but sometimes I get very emotional when I talk about my son. My heart fills with so much joy when I realize that this young man is going to help so many people. The world will be a better place by virtue of his existence and his presence.
Le monde sera une place meilleure à cause de son existence et de sa présence. Ainsi, Earl Woods présentait-il son fils Tiger Woods au monde entier. Et ça donne le frisson, cet extrait-là, quand même, même si on l'a vu à plusieurs reprises. Jérémy qui est avec nous. Bonsoir, Jérémy.
Salut, Mario.
Tu t'imagines quand même, quand on voit le documentaire, et on va en parler au cours des prochaines minutes, mais la barre était haute. Tu sais, on parle du mot pression, là, qui à un moment donné ne veut plus rien dire, tout le monde l'entend souvent, là. Ouais. Mais c'est un gars qui était présenté au monde entier avec une marge d'erreur inexistante.
Bon, t'as raison de le mentionner. Écoute, tu sais, Tiger, souvent son père parle de lui, mais il parle pas seulement d'un golfeur extraordinaire à venir, mais il compare à Gandhi, il l'a comparé à Jésus, il l'a comparé au bon Dieu à plusieurs reprises. Et là, ben lui, il est juste à côté, puis il écoute son père parler de lui, puis je comprends ce que Earl Woods voulait dire, parce que Tiger allait devenir le premier grand joueur de golf noir. Il allait jouer sur des parcours où quelques années précédemment seulement, les joueurs noirs n'avaient même pas accès. Donc, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Mais vous vous imaginez la pression qu'il a mis sur le dos de son jeune homme, un petit garçon qui, on le voit dans le documentaire, il a préparé, Mario, depuis... écoute, le moment où il a été capable de se tenir sur deux jambes, Tiger Woods avait déjà un bâton de golf dans les mains. Et quand vous regardez les images dans le documentaire, Mario, son élan est pratiquement parfait. Et ce, dès l'âge de 2-3 ans, là, quand il frappe une balle pour la première fois, c'est assez extraordinaire.
Et on comprend dans le documentaire, d'ailleurs, un des gros points positifs du documentaire en deux parties, c'est il y a beaucoup d'archives, beaucoup d'images. Et Tiger, ouais, donc, il y avait cette volonté-là du père de présenter Tiger au monde entier très tôt dans sa vie. Parce que c'est pas par hasard qu'on l'a vu à la télévision, quoi. Il y avait pas 3 ans la première fois qu'on l'a vu à la télévision.
Exact. 1978, en fait, il y avait 2 ans, un peu plus, là, presque 3 ans. Et il est à la télévision, il présente son fils et, bon, il effectue un putt et tout ça, il démontre son élan. Donc, c'était préparé d'avance. C'est assez clair que le but de son père et de sa mère aussi, là, je dois quand même le mentionner, c'était de préparer le plus grand golfeur de l'histoire du golf. C'est clair, là.
Ça quand ils ont découvert qu'il y avait une affinité avec le sport, parce qu'ils ont fait goûter à plusieurs sports, dans ma compréhension, Jérémy.
À un moment donné, à partir du moment
qu'ils ont catché que, hey, wow, tu vas à swing?
Exactement. À partir de ce moment-là, c'était terminé. D'ailleurs, à un certain moment donné, Tiger demande à une éducatrice à l'école de discuter avec son père pour lui essayer de le convaincre, de lui permettre de faire d'autres sports, et le père de dire non, il doit se concentrer sur son golf. Et là, on parle, là, il est un jeune garçon à ce moment-là. Ils avaient vraiment un plan déterminé, les parents, à un tel point où Tiger, même une petite blonde, c'était non, là. D'ailleurs, à un certain moment donné, il y a un ami de son père qui explique dans le documentaire, on va l'entendre dans quelques instants, que Tiger avait menti à ses parents et il était allé voir une jeune fille qu'il voyait et tout ça. Et là, ses parents ont su qu'il avait fait ça, qu'il était allé voir cette jeune fille-là, qu'il avait une petite copine. Et là, ben d'écouter justement le père, l'ami de son père qui nous explique la scène lorsque lui est arrivé à la maison. L'écoute.
One time, Tiger lied to them, stayed at his girlfriend's house, Cheetah and Earl. And they were furious. I was shocked. Tita was goddamning a lot, very loud tone of voice, goddammit! And Earl was just incensed, and you could just hear it in his voice. We don't need this. You're gonna get pregnant, he's gonna blow the whole goddamn thing. He was spooked.
Il était pas question que Tiger tombe en amour dans sa jeunesse.
Non. Puis là, écoute, on parle d'un jeune homme qui vient de rentrer au collège, donc il a peut-être 18 ans à ce moment-là. Et là, ses parents de savoir qu'il avait une petite copine. Et là, le père et la mère de dire, elle va tomber enceinte, et il va tout ruiner le plan et tout ça. Et il a été obligé d'écrire une lettre à sa copine qu'il voyait en secret pour lui dire que malheureusement, ses parents ne voulaient rien savoir d'elle.
C'est
et
fini.
Que c'était terminé, sauf que on voit dans les années qui suivent que il recommunique avec elle à plusieurs reprises lorsque les choses deviennent un petit peu plus compliquées dans sa vie. Donc, il y avait encore beaucoup d'affection pour elle. Malheureusement, ses parents étaient pas sur la même page.
Mais là, obligé de se soustraire à la décision de ses parents, et ça revient tout le long de sa vie, tel que présenté dans le documentaire, cette capacité et bon, il y a eu des erreurs de parcours, évidemment, mais il y a quand même eu toujours cette force dominante d'être capable de compartimenter ou compartimentaliser les pensées dans sa tête, de se bloquer émotivement. Puis on va voir pourquoi peut-être que sa chute était nécessaire à un moment donné pour qu'il se découvre lui-même. As-tu aimé le documentaire? As-tu trouvé ça bon?
Absolument. Vraiment. Moi, premièrement, je suis un fan de Tiger Woods. J'ai adoré les années où il a dominé le monde du golf, là, de 97 à 2008. J'ai regardé beaucoup de golf à cause de Tiger dans ces années-là. Et je suis toujours demeuré un fan de Tiger. Puis malgré le fait qu'il a eu des moments difficiles après, ça n'a pas enlevé quoi que ce soit pour mon admiration pour lui. Parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'il n'était Il était humain. On le voyait surhumain, mais il était seulement humain. Et non, moi, j'ai une genre de sympathie pour Tiger Woods dans tout ce qu'il a traversé. Ce sont des choses que traversent plusieurs personnes dans leur vie, des épreuves difficiles. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Écoute, c'est 3 heures là, qui passent extrêmement rapidement.
Très rapidement. Et je dirais que quiconque va regarder ça, Jérémy, je sais pas si tu as ressenti la même chose, peu importe. Puis on peut pas se comparer à Tiger, là, tout ce qu'il a vécu, ça n'a rien à voir. Mais je parle au niveau des sentiments, des émotions, des épreuves, des échecs, des objectifs, la visualisation, la vie personnelle. Il y a des choses, je pense, que quiconque regarde ça. Puis d'ailleurs, avant qu'on voit le documentaire, c'est pas pour rien que Tiger est populaire. Il y a beaucoup de gens, même s'ils sont pas de la même couleur que lui, qui se voient en lui, dans Absolument. Son vécu, dans ses erreurs, dans sa façon de se relever, de se rebondir. As-tu ressenti ça, toi aussi?
À 100%. Écoute, de la pression, plusieurs d'entre nous en avons ressenti de la part de nos parents. On veut pas les décevoir. On veut faire tout ce que nos parents veulent de nous. Puis à un certain moment donné, des fois, ça peut devenir un peu trop lourd, un peu trop pesant. Vous pouvez vous imaginer ce que ça pouvait être sur ses épaules à lui. Et là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que, il découvre que son père, malheureusement, est infidèle à sa mère. Et là, justement, le monsieur que vous venez d'entendre il y a quelques instants avoue que lui et le père de Tiger, deux hommes mariés, se faisaient du fun, comme on dit, dans le Winnebago familial qui était stationné dans le stationnement du terrain de golf, là où Tiger pratiquait. Et à plusieurs reprises, Tiger de voir ce qui se passait de ses propres yeux. Et il explique avec regret que c'est quelque chose qu'il n'aurait probablement pas dû faire. Et tranquillement, pas vite, sa carrière prend son envol. Il gagne les championnats, il gagne plusieurs millions. Et là, il se sépare de son père. Le gars qui l'adule, qui l'adore, parce que je pense qu'il lui en veut un peu à cause de tout cela, mais aussi parce qu'il ne le croit plus capable de gérer sa grande carrière. Et là, malheureusement, il tombe malade et il décède. Et là, ça fait comme... C'est quelques années que Tiger a délaissé un peu son père, et là, la culpabilité vraiment embarque. On commence à le voir là, à partir du décès du père. Là.
Ouais, le décès du père, et oui, la distance qu'il a envie de prendre de son père, qui est omniprésent. Puis le père comprend ça quand même. Hein. On sent qu'il y a une compréhension de la part de Earl Woods. Les deux parents sont intenses à leur façon, et il y a une quête de soi qui commence au moment où... et c'est là exact. Qu'il s'enrôle dans des camps de Navy SEALs, où il pêche. Je sais pas s'il payait bien cher, mais en tout cas, où il s'inscrit à des camps Navy SEALs, un peu pour honorer la mémoire de son père, puis peut-être trouver à travers ces expériences-là un dénominateur commun avec son père. Mais autant ça, la préparation que son père lui a permis de vivre, autant ce qu'il avait vécu avec les Navy SEALs. Je sais pas si t'as pensé à ça. Quand il gagne sur une jambe le US Open, après là, donc ces camps Navy SEALs, pour le moment où ça commence à mal aller, puis qu'il trouve des affaires en coulisses, c'est vraiment sa force mentale qui a permis de gagner ça puis de faire des bons coups parce qu'il jouait carrément sur une jambe, l'a blessé sérieusement jusqu'à la fin du US Open de cette année-là.
Tu sais, quand on dit qu'au golf, là, ça prend une concentration hors du commun pour bien jouer. Tu le sais, Mario, tu joues au golf. Si tu perds la tête, les prochains coups qui vont suivre, malheureusement, ça va être des mauvais coups. Dans le cas de Tiger Woods...
Pas juste au golf, d'ailleurs.
Ben, c'est ça,
exactement. Dans ce sens-là, tu sais, c'est rare.
Mais au golf, c'est encore pire. Oui, donc, lui, vivait des choses... Pas. Personnel dans sa famille, son père décède, là il commence à déraper un peu aussi, il a une blessure au genou où il doit subir complètement une reconstruction du genou et il arrive quand même à gagner ce tournoi-là sur une patte. Je crois que c'est Rocco Mediate contre qui il jouait qui en revenait tout simplement pas des coups qu'il arrivait à effectuer malgré le fait qu'il avait beaucoup de douleurs et c'est là que ça commence à déraper où il commence à faire plusieurs voyages à Las Vegas. Il cherche un exutoire. Il cherche quelque chose pour essayer
décrocher. Il y a des guides à Vegas, hein?
Ben oui, c'est vrai.
Michael
exactement.
Jordan et Charles Barkley, notamment.
Charles Barkley, entre autres, qui étaient là, qui lui ont montré un peu comment ça se passait là-bas, parce que lui, il était, disons, une recrue du gros party de Las Vegas. Et là, si tu le veux bien, on écoute une dame qui, elle, s'occupait d'une agence d'escorte, et elle raconte un peu ce que Tiger voulait. Et ensuite de ça, on va entendre le commentaire de Armen Kettian, qui est auteur du livre de Tiger Woods, qui nous explique qu'est-ce qui se passait dans la tête de Tiger et qu'est-ce qu'il faisait pour essayer d'oublier.
Every couple of months, he requested to have multiple girls. Could be up to, you know, 10 girls at a time. Young, college cutie, girl next door type, probably blonde.
Vegas is providing every opportunity he wants to sample everything and anything he wants, including the highest of high-end escorts. One troubled man. And much like alcohol, much like drugs, much like gambling, sex is a form of pain relief.
Donc, c'est il utilise
pain
le
relief,
sexe. C'est ça.
C'est un soulagement pour lui.
Exactement. Donc, comme l'alcool, comme la drogue, pour lui, c'est le sexe. C'est ça qui lui permet de s'échapper psychologiquement. Vous avez entendu la dame dire au début, il pouvait commander dans une soirée 10 filles pour le rejoindre dans sa chambre pour son party privé, entre guillemets, des week-ends qui coûtaient dans les 6 chiffres. Imagine,
et
Mario.
Alors qu'il était marié avec Helen Nordegren à ce moment-là aussi.
Exact.
Et donc, il y avait une vie parallèle parce que je parlais de compartimenté, là. C'est ça. Lui, c'était quand il était à la maison, ben là, il se dédouaner en quelque sorte tous les comportements qu'il voulait avoir selon les circonstances qu'il avait à vivre, tout en essayant de protéger son image. Parce que l'image du gars parfait, c'est difficile à assumer. Puis c'est devenu très lourd, je pense, pour lui. C'est ça qu'on sent. Mais il faut le dire aussi, c'est une biographie en quelque sorte non autorisée. Tiger Woods dit pas un mot là-dedans. Il n'y a pas d'entrevue avec Tiger Woods. C'est du monde qui ont été autour de lui. Même des fois, ça fait un peu commérage, un peu voyeur, mais c'est quand même intéressant à regarder.
C'est très intéressant à regarder, mais au niveau informatif pour moi, parce qu'à un certain moment donné, on voit que le National Enquirer embarque là-dedans. D'ailleurs, c'est eux qui ont sorti cette histoire-là, comme quoi Tiger Woods avait plusieurs maîtresses, parce que là-dedans, il y avait 6 ou 7 filles avec qui il gardait des relations, il gardait contact. Ces filles-là étaient certaines que Tiger est en amour avec elles. Et le National Enquirer, à un moment donné, sort l'histoire. Et là, ben écoute, c'est la fin du monde. Même s'il ment à sa femme, elle finit par... savoir ce qui se passe. Et là, bon, on se souvient du fameux incident où il essaye de quitter la maison dans son véhicule. Elle frappe le véhicule avec un bâton de golf. Finalement, lui déroute et il y a un accident. Ça mène justement aux fameuses excuses. Là. Tu t'en souviens, Mario?
Oui.
Il sort publiquement.
Devant sa mère, puis un public choisi d'amis. D'ailleurs, il y en a qui questionnent la stratégie marketing des gens qui l'entouraient à ce moment-là, d'aller s'auto-flageller en public. Et tout de suite après, c'est suivi du discours de Billy Payne, qui était le chairman, en quelque sorte, le chef du club à Augusta, là, des membres, et qu'on a vu souvent là, donner le départ de chaque épreuve du Masters, qui fait une espèce de sermon où il dit que là, maintenant, on va plus juste évaluer Tiger sur ses succès au golf, mais on va l'évaluer sur comment qu'il mène sa vie. Puis là, c'est moi qui l'ajoute, c'est pas lui qui le dit. Mais tu sais, je trouve que ça a une teinte un peu raciste, là, ce qu'il dit, parce que c'est un club de blancs qui admettait pas de noirs, puis là, Tiger, forcément, tout le monde. Puis ce qu'il dit, c'est, hey, tu nous as as clenché au golf, là, mais on vient de découvrir que t'es pas mieux que nous autres dans la vraie vie. Nous autres, on est parfaits. Ça m'a fait penser au fameux verset que celui qui n'a pas péché lance la première pierre.
Ouais,
lui,
ouais.
Je sais pas s'il a déjà péché, mais il s'est pas gêné de lancer la première pierre. Puis dans ce temps-là, Tiger, t'as tellement en terre puis tout le monde piétinait dessus que ça a passé, mais ça passerait pas aujourd'hui, ça.
Ben, Brian Gumbel l'a dit dans le documentaire, il a dit, tu sais, c'était inexcusable des commentaires comme ça. Qui sont-ils, eux, pour émettre des commentaires comme ça, alors que, comme tu dis, lorsqu'il était au sommet de sa gloire, on n'en avait que pour lui. Donc, ça, ils en parlent dans le documentaire. Et Tiger, ensuite de ça, dans la honte, hein, parce que là, il s'en va jouer un tournoi à un moment donné. Écoute, il y a un avion qui passe dans le ciel où c'est écrit « Sex addict, mon œil », tu sais, genre, ben oui, tu sais, on est tous des sex addicts. Il se fait humilier et insulter par les partisans qui sont sur place. Donc là, il vit des moments extrêmement difficiles et c'est là qu'il va commencer vraiment à déraper dans la consommation de pilules, hein, probablement pour oublier ses problèmes.
C'est
et
la meilleure
ça.
Chose qui lui est arrivée, je pense. Honnêtement, c'est plate à dire. Là, mais ben, quand il se, ben, je dis la meilleure chose, c'est une façon de le présenter, mais quand il se fait arrêter, puis d'ailleurs tout le monde entier a vu ces images là, quand il est complètement gazé sous l'effet de 5 médicaments qu'il obtient sous prescription pour atténuer les douleurs, il dit aux policiers qu'il est dans Orange County, c'est en Californie. Ouais, il est à Jupiter proche de chez eux. Il conduit son char.
Non,
il dit aux policiers, j'étais à Orange County, quand il demande savez-vous où ce que t'es. On l'a tous vu ça, mais ça a permis sa renaissance.
Sais-tu quoi? Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement triste parce que je me suis dit, je pense que si c'était un athlète blanc reconnu, je pense pas qu'on l'aurait traité de la même façon parce qu'il avait là vraiment l'air. Tu sais, on l'a traité vraiment comme un gars, un moins que rien, là. Tu sais, on l'arrête, c'est un n'importe qui, c'est pas grave. On va mettre les images à la télé et tout ça. J'ai eu pitié pour lui à ce moment-là. Mais, Mario, t'as raison.
J'ai pas trouvé que les policiers, cependant, je l'ai pas vu comme toi. J'ai juste considéré qu'il avait pas fait de faveur. Mais je t'écoute pour la suite.
Mais je pense que t'as raison quand tu dis que ça prenait ça. Parce que là, ensuite de ça, il s'en va en réhabilitation. Et c'est là vraiment que sa route commence à s'améliorer. Et si ça arrive pas, si les policiers ne l'arrêtent pas, s'il s'en va pas en cure de désintox, peut-être que Tiger, aujourd'hui, n'est pas plus avancé qu'il l'est présentement. Alors, je pense que c'était le fond du baril. Ce moment-là, c'était le fond du baril absolu parce qu'il y en a, touché plusieurs fonds du baril. Et si vous le voulez bien, je vous laisse écouter Michael Bamberger, qui lui est l'éditeur en chef du Golf Magazine, qui parle de Tiger Woods, qui à plusieurs reprises a songé prendre sa retraite, mais il a dit, je me demande qu'est-ce qui reste pour une personne comme ça s'il se retire sans avoir battu le grand Jack Nicklaus. On l'écoute.
What are you going to do if you're Tiger Woods? And the thing that's made your whole life possible and defined your whole life, that gets taken away from you. The entire identity of Tiger Woods is bound in his golf. There's only one path to the end line of his golf, which is undisputably the greatest of all time. So if he's got to leave golf and can't really say he's worn the mantle of the greatest of all time, then really, where is he? Because that has been his entire identity.
C'est ça qui est triste. Si on parle du deuxième, là, derrière Jack Nicklaus, en termes de victoire gagnée pour les tournois majeurs. Et ce gars-là ne peut pas se retirer dans la gloire parce qu'il a été programmé depuis qu'il a un an pour être le meilleur de tous les temps. Et là, de devoir accrocher, potentiellement, bien sûr, sans avoir rejoint Jack Nicklaus ou l'avoir dépassé, il reste quoi à Tiger Woods après?
Et il pensait que c'était fini. Il pensait que c'était fini. Il l'avait confié à Jack Nicklaus. Ça ressort dans le documentaire. Mais tu sais quoi, comme un vrai film là, qu'on scénarisera au complet, puis la vie de Tiger, la carrière n'est pas finie. Mais c'est un happy ending, pareil, à cause justement de son arrestation. Après ça, sa thérapie en quelque sorte. Il s'en va séjourner pour régler ses problèmes d'addiction. Ensuite de ça, le miracle de la fusion, l'opération, sa quatrième chirurgie. D'ailleurs, il en a subi une cinquième cette semaine au dos. Puis là, il se remet à soigner. Puis le sourire qu'on voit de Tiger Woods depuis ce temps-là, là, on dirait qu'on découvre. L'homme s'est découvert lui-même, hein.
Ben oui.
Philo, c'est. Et ça fait une belle fin, veut pas. On verra comment ça finit vraiment sa vie, sa carrière. Mais la dernière tranche, C'est du bonbon, là.
Ben, écoute, deux choses. Tu sais, on le voit sur le terrain de golf, premièrement, jaser avec ses pairs et tout ça, leur serrer la main, rire. Tu sais, c'est des choses qu'il pouvait pas se permettre au début de sa carrière. À un moment donné, il y a une citation de sa mère qui dit « Tu leur piles sur la gorge et tu les démolis tous. » Je pense que Tiger, aujourd'hui, comprend qu'il y a autre chose. Il y a autre chose dans le golf que juste ça, et surtout les images qu'on a vues à la fin de l'année 2020, alors qu'il participe à un tournoi caritatif avec son fils, et on voit tout le talent déjà du jeune homme.
C'était beau.
Et donc, les câlins sont de retour sur les terrains de golf, sauf que là, au lieu d'être lui avec son père, ben c'est lui le père avec son petit, et tu sais, en espérant justement qu'à partir de maintenant, Tiger va pouvoir vivre un peu plus librement, après avoir appris, bien sûr, plusieurs leçons. Que Mario, on les a probablement tous appris ces leçons-là, mais de devoir les apprendre publiquement comme ça devant tout le monde.
À cette échelle-là, ça devait être quelque chose. Ça devait être quelque chose. Le côté humain, je pense que tu me disais au téléphone, on se parlait cet après-midi, que tu le comprends mieux que tu le comprenais avant d'avoir vu ça. Alors, on vous invite à regarder ça si vous avez du temps à écouler, à regarder des séries. Ça fait changement de regarder un documentaire. Merci, Jérémy. Merci d'avoir joué avec moi. C'était bien le fun.
Salut. Bonsoir.
Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.